Radio Open FM. L'Europe et nous, info, histoire et actu. Plongez au cœur de la culture européenne avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
Aujourd'hui, je suis avec Marie-Lou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin, que l'on retrouve après cette pause estivale. Bonjour.
Bonjour Delphine. Et c'est un plaisir de pouvoir revenir échanger avec toi sur plein de sujets culturels sur l'Europe.
Mais qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui pour cette rentrée ? N'y aurait-il pas encore un goût de voyage ?
Et oui Delphine. Donc pour contrebalancer ce sentiment de fin de vacances qu'on redoutait tous, je te propose de nous évader et de partir à la découverte des îles de l'Union européenne. Elles sont nombreuses, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Et nous allons plus particulièrement parler aujourd'hui des régions ultra-périphériques.
Ah, ça me parle. Ce ne serait pas la Guadeloupe et la Martinique, par exemple.
Tout à fait. Et là, tu viens de citer deux régions sur les 9 qui font partie de l'Union européenne et qui sont rattachées à l'un des 27 États. Du côté de la France, on a aussi Mayotte, La Réunion, Saint-Martin et aussi la Guyane, qui, je rappelle, n'est pas une île,
ben non.
Mais qui est d'ailleurs le seul territoire français situé sur le continent sud-américain, au nord du Brésil. Il en reste donc 3, 2 situées au Portugal, on a Madère et les Açores, et une en Espagne, les Canaries.
Avant d'en savoir plus sur ces régions, peux-tu nous dire concrètement ce que c'est une région ultra-périphérique ?
Alors une région ultra-périphérique, ou RUP, c'est un statut attribué aux parties du territoire étant éloignées de l'Europe. Cela signifie que, comme les autres territoires de l'Union européenne, elles sont soumises aux droits européens. Donc la législation et les accords de l'Union sont alors pleinement applicables sur leur territoire. Cependant, elles disposent de certaines spécificités compte tenu de leur éloignement géographique. En effet, certaines des politiques européennes ont dû être adaptées dans les domaines suivants. Les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques agricoles et de la pêche, ainsi que les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation essentiels. Cette adaptation est importante, car ces régions doivent faire face à de nombreuses difficultés liées à leurs spécificités, notamment l'éloignement, l'insularité, la faible superficie, ainsi qu'un relief et un climat difficiles. Leur économie est dépendante d'un petit nombre de produits, ce sont souvent des produits agricoles ou des ressources naturelles, et d'autres règles sont assouplies, et peuvent être adaptées aux besoins de ces régions.
Ce statut a l'air complexe, puisqu'elles ont les mêmes règles, mais pas tout à fait.
C'est ça, et en plus, il faut savoir que cela diffère également en ce qui concerne l'espace Schengen. Rappelons-le, c'est un espace où le contrôle aux frontières intérieures est supprimé, sauf exception, et où au contraire, celui aux frontières extérieures est renforcé. Pour nous, citoyens européens, cela nous permet de voyager plus librement et facilement, car nous ne nous sommes donc plus contrôlés à la frontière. Cependant, nous retrouvons une disparité entre les RUP. Bien que les Açores, Madère et les Canaries fassent partie de cet espace, ce n'est pas le cas des régions françaises. Cela diffère donc pour les ressortissants de pays tiers, donc les personnes qui viennent hors de l'Union européenne, car si elles souhaitent se rendre à la fois dans l'espace Schengen, par exemple en Espagne, et dans un territoire français d'outre-mer, et ils doivent alors déposer des demandes de visas distinctes. Un visa de court séjour Schengen, par exemple pour aller en Espagne ou même en France, et un visa pour l'outre-mer.
Et ces régions disposent de diverses spécialités au sein de l'UE. Et quels sont les domaines concernés ?
On retrouve pour commencer l'aérospatial, par exemple avec la Guyane, dont son centre spatial est la principale base de lancement de satellites et fusées de l'Union européenne. On y retrouve également les secteurs de la biodiversité terrestre et marine, avec la Réunion qui a été classée par l'Union mondiale pour la nature parmi les 36 points chauds de la biodiversité. Ce sont les régions terrestres les plus biologiquement riches, avec la présence d'espèces endémiques, donc ce sont des espèces uniques au monde, mais à la fois, ce sont les régions qui sont les plus menacées de la Terre. Et donc, une grande partie de ces richesses est protégée par le parc national de la Réunion et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Il me semble que la Nouvelle-Calédonie, elle aussi, est présente dans ce classement.
Oui, mais là, il s'agit d'un territoire d'outre-mer, comme par exemple la Polynésie française ou le Groenland. Ils sont 13 à être associés à l'Union européenne, dû à leurs relations particulières qu'ils entretiennent avec un État membre, la France, les Pays-Bas et le Danemark. D'ailleurs, la France est le seul État de l'Union européenne à compter à la fois des RUP, donc les régions, et des pays et territoires d'outre-mer. La différence entre les deux, c'est que les pays et territoires d'outre-mer ne font pas partie du marché unique européen.
Ah oui, je comprends mieux. Avant de découvrir les RUP espagnoles et portugaises, aurais-tu quelques mots pour nous présenter nos régions françaises ?
Alors, il est difficile avec le temps imparti de résumer ces belles régions, mais voici un petit panorama. Alors, on a la Réunion, qui est située à l'ouest de l'océan Indien. Elle est à la fois une région et un département français, de taille comparable au Luxembourg. Avec près de 870 000 habitants au 1er janvier 2022, elle est la région française ultramarine la plus peuplée. Et petite information concernant le Parlement européen, le Réunionnais Younous Omarjé représente la circonscription française des Outre-mer, de la section Océan Indien, depuis 2012. Et en 2024, il a été élu vice-président de l'institution, devenant ainsi le premier ultramarin à occuper un tel poste. Et son portefeuille comprend les régions ultra-périphériques, les pays et territoires d'outre-mer, les îles européennes, ainsi que les relations avec les petits États insulaires en développement. Alors après, on a Mayotte, qui est pas loin de la Réunion et surtout juste à côté de Madagascar, avec un archipel de 2 îles. Elle est la plus petite région française en termes d'aire géographique, une taille comparable à Malte. Et elle est aussi la moins peuplée. Après, on a les Antilles françaises, où on retrouve la Guadeloupe et la Martinique, qui sont dans la mer des Caraïbes. La Guyane, qui, on rappelle toujours, n'est pas une île, mais bien une région ultra-périphérique, dont sa forêt tropicale, qui recouvre quasiment l'intégralité du territoire, compte parmi les réserves écologiques les mieux préservées du monde. Et pour finir, on a Saint-Martin, qui fait partie des îles Leeward, dans la mer des Caraïbes. Elle est divisée entre 2 pays distincts, donc la partie du nord qui est appelée Saint-Martin, qui est la partie française, et sa partie du sud, qu'on appelle Sint-Maarten, qui est la partie néerlandaise.
Tu nous as rappelé les régions françaises, mais qu'en est-il du Portugal ?
Alors, allons sur le Portugal, où on retrouve 2 régions. On a Madère, qui est connue pour son climat stable et doux toute l'année. C'est d'ailleurs l'île qu'on surnomme « île du printemps éternel ». Et les Açores, qui est un archipel plus sauvage, au climat océanique très variable, avec la possibilité de vivre 4 saisons en une seule journée. Donc commençons par les Açores, qui est devenue une région portugaise en 1976, et elle regroupe 9 îles. D'origine volcanique, elle se caractérise par ses paysages verdoyants, sa côte escarpée et son relief accidenté. La montagne de Pico, qui est haute de 2351 mètres, est située sur l'île du même nom et elle est le point culminant du Portugal. Les Açores regroupent un patrimoine culturel riche, la ville Angra do Heroísmo, sur l'île de Terceira, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Leur fond marin se compose d'un réseau de 30 sites publics de plongée centrés sur des épaves datant autour du 15e et 20e siècle et elles sont présentées comme des capsules temporelles de l'histoire européenne, symbolisant différentes époques et différents territoires. Pour finir, à Furnas, sur l'île de São Miguel, des mares bouillonnantes libèrent en continu la chaleur des entrailles de la terre et vous pouvez vous y baigner en vous rendant au Parque Terra. L'eau qui est chauffée par le volcan sera 42 degrés, puis dans tout le bassin à 37 degrés. Donc vous pouvez vous y baigner et elle est blanche et au contact de l'air, elle s'oxyde et prend une couleur orange foncé.
Et Madère ?
Alors, maintenant Madère, c'est un archipel qui se compose de 2 îles principales, donc Madère du même nom, et Porto Santo. Et il y a aussi 2 groupes d'îles inhabitées, les îles Desertas, qui sont classées réserves naturelles, et les îles Selvagens, qui elles aussi sont protégées et qui a été la première réserve naturelle du Portugal. Madère est surprenante par ses hauteurs, avec 1/3 de la superficie au-dessus de 1000 mètres, et son point culminant est le Pico Ruivo, avec 1862 mètres d'altitude. Et elle détient l'une des plus hautes falaises du monde, le Cabo Girão, et son pic de 580 mètres sur la mer. Il est le promontoire le plus élevé d'Europe. Son point de vue, avec sa célèbre plateforme suspendue en verre, qu'on appelle Skywalk, est aujourd'hui l'une des attractions touristiques les plus populaires de l'île donc de Madère.
Et aux Canaries, on retrouve ces altitudes également ?
Oui, en effet. D'ailleurs, l'archipel est composé de 7 îles majeures qui fait partie de la Macaronésie, une zone d'origine volcanique située au nord-ouest des côtes africaines. On y trouve le Teide, à Tenerife, qui a une altitude de 3718 mètres et qui est le plus haut sommet d'Espagne. Cette île est la plus grande et la plus variée de l'archipel. Elle offre des plages dorées, des montagnes imposantes, des volcans et des villages pittoresques. Et pour les rêveurs, c'est Palma qui est fait pour vous, car avec son ciel étoilé de qualité, elle est la première réserve et destination touristique Starlight au monde, et car elle bénéficie d'une loi contre la pollution lumineuse. Donc, à vous les étoiles.
Merci Marie-Lou pour ce beau panorama, cela m'a donné envie de découvrir d'autres îles.
Alors ça tombe bien Delphine, car on se retrouve dans quelques semaines pour continuer notre voyage dans les îles européennes. À bientôt.
C'était l'Europe et nous. Infos, histoires et actu autour de la culture européenne. À retrouver chaque semaine avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.